10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. On est là une heure pour parler ensemble le samedi matin avec Yacine Ilmi qui est là. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous, content d'être parmi vous.
Bien.
Ah, j'aurai mon masque.
Non, j'allais vous le dire, enlevez votre masque, Yacine. Vous êtes à 7 mètres de l'imam, vous risquez rien.
Non, mais juste avant, il y avait des shows, quoi.
Ah oui, il y avait des shows.
Moi, je dis qu'il faudrait quand même qu'il le garde un petit peu, ce mien. Parce que franchement, comment beau gosse qu'il est, Karima va couper sa main.
Oh non,
ça coûte.
D'abord, est-ce que tu connais l'histoire des femmes qui, quand ils ont vu entrer l'ange qui était Youssef, allez, ils se sont coupés la main au moment de couper la pomme. Ils se sont coupés la main.
C'est vrai.
Tellement ils ont été subjugués.
Tellement il était beau. Non mais il était beau.
Par sa beauté.
Mahada, ils ont dit c'est pas un être humain. Mahada basharun. In hada illa malakun karim. C'est un ange envoyé de Dieu.
Ce qui est bien, Imam Abdelali, c'est que vous me laissez le temps de présenter les gens. Karima Shadibaou est avec nous.
Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe.
Voilà, grande voix de Beurre FM, une de mes acolytes de AVS à votre santé. Vous êtes coach familial et parental, cofondatrice de votre propre école de naturopathie, maintenant qui s'appelle l'ENAT, à Saint-Ouen. Alors, Elisabeth Crémieux est avec nous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous.
Vous êtes agrégée d'histoire et présidente de l'association Agora.
Agora.
À chaque fois, je pense toujours à l'Agora, en fait.
Agora, apprendre, comprendre.
Respecter, aimer.
Voilà.
Donc c'est plusieurs mots comme un peu speak uni, quoi.
Exact.
Spiritualité.
Voilà. Un acronyme.
Un acronyme.
Ah, d'ailleurs, qui c'est Elisabeth, Imam Abdelali, vous savez?
Ah, la personnage de l'histoire. Elisabeth, donc, est la mère de Jean-Baptiste. C'est la grande-tante de Jésus. Et c'est la tante de Marie.
Et la sœur, c'est la sœur de Anna.
Et c'est la sœur de Anna, Imra'atu Imran, citée dans le Coran. Non pas par son prénom, mais par le nom de son mari. Puisque dans le Coran, Dieu dit que la femme de Imran avait engagé son enfant, ou ce qu'elle portait dans son ventre, elle l'avait voué à Dieu.
Oui.
Donc pour qu'il devienne le bébé, donc un gardien du temple, du temple de Jérusalem. Mais quand elle l'a donné naissance, elle a constaté que c'était une fille. Et donc, en l'occurrence, Mariam, et elle s'est dit, mais que vais-je faire de cet enfant que j'ai voué à Dieu? Et qu'est-ce qu'il va faire au milieu de ces gardiens dans le temple de Jérusalem? Et Dieu dira, mais oui, moi, je sais avant toi que c'est une fille, et une fille n'est pas comme un garçon. Voilà. Et donc, finalement, elle servira à une cause extraordinaire, c'est donner la vie miraculeuse à ce grand homme, ce grand personnage qui va carrément bouleverser la planète, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie.
D'ailleurs, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle...
Mariam, c'est la seule...
Mais la famille de Imran.
Ah oui, bien sûr, la famille d'Ali Imran, tout à fait. Et c'est dans cette sourate-là qu'est racontée l'histoire de l'épouse de Imran, en effet... et qui est encore un mystère sur Moussa ibn Imran, Moïse fils de Imran, et Mariam fille de Imran. Est-ce que ce Imran là c'est le même, sachant qu'il y a 1200 ans qui les séparent?
J'allais vous poser la question, c'est pour savoir si c'était le même.
Alors la plupart des savants disent non, c'est un autre Imran, mais moi je persiste et signe que c'est le même, parce que déjà le mot Imran ça veut dire l'homme qui vit longtemps, Ya'mor fil hayat. Et quand dans le Coran les patriarches du temple vont interpeller Marie et vont lui dire Ya Ukhta Haroun, ô sœur de Haroun, qui est Haroun? C'est le frère de Moïse. Donc elle est la sœur de Haroun, comme le disent les patriarches, et elle est la sœur de Moïse. Donc c'est bien le même personnage qui est le père de Mariam, qui a vécu très longtemps, comme Noé a vécu plus de 1000 ans.
Bon, pourquoi pas, l'imam Abdelali Mamoun a une piste sérieuse. On parle de l'ascétisme au féminin, imam Abdelali. Alors, on va d'abord commencer par les mots Yacine, si vous voulez bien, qu'on a appris en préparant cette émission.
Bah, bien entendu, le mot ascète. Que signifie le mot ascète? C'est un mot qu'on n'utilise pas au quotidien, surtout dans cette société de consommation.
Donc, alors, Elisabeth Crémieux, est-ce que vous avez une définition à donner du mot ascète?
Je pense que l'ascète est celui qui mène une vie de privation, de solitude souvent, dans le but de se rapprocher de Dieu.
Karima, ça vous va? Vous avez quelque chose à rajouter?
Non, moi ça me va très bien.
Imam Abdelali.
Je pourrais dire c'est aussi un moyen pour le croyant qui s'est abandonné, qui a abandonné son âme à Dieu, de cheminer vers une démarche qui est, afin d'atteindre la perfection de la foi, l'excellence de la foi, le summum de la foi.
Oui, c'est ça.
Et on dit, nous, dans le Coran, dans la Sunna, dans la tradition prophétique, que seules 4 femmes ont atteint ce degré-là, ce degré de l'excellence, de la perfection de la foi. Et il dit, le prophète dit, Kabula min ar-rijali kathir, il dit, beaucoup d'hommes ont atteint ce degré au summum, mais il dit que seulement 4 femmes, là c'est le prophète qui parle à son époque. Il n'est pas dit qu'après lui, il y en ait d'autres femmes.
Mais moi, l'imam, j'ai une autre définition par rapport à ça, une autre explication.
Alors attendez, laissez-nous quand même d'abord dire quelles sont ces 4 femmes.
Non, mais pour ne pas limiter, dire qu'il n'y a que 4 femmes qui ont atteint cette...
Il dit que le prophète, au moment où lui, il le dit, il n'y en a que 4, puisqu'il ne peut pas mentir le prophète.
Non.
S'il dit qu'il y en a 4, c'est que peut-être après lui, il y en a eu d'autres.
C'est pas dans ce sens-là de limiter au nombre qu'il n'y a que 4 femmes. C'est-à-dire que ce sont 4 portes, moi j'appelle ça les 4 portes de la féminitude, qui ouvrent justement à cette élévation spirituelle.
Féminitude,
et à cette...
c'est la première fois qu'il entend celle-là.
Après, il y a la bravitude et la féminitude.
La négritude.
Mais parce que... Non, vous rigolez, l'imam.
Attends, d'abord les 4 noms. On a Assia, l'épouse de Pharaon, Marie, la mère de Jésus, Khadija, la femme du prophète, et Fatima, la fille du prophète.
Voilà. Et le hadith termine en disant que Aïcha, radiallahu anha, d'accord, est semblable au mets délicieux qu'aimait le prophète, aïssa ou salam, trid, nous on le trid.
Il dit que Aïcha est parmi vous comme le meilleur repas, le meilleur plat que j'aime moi parmi vous, c'est le parmi tous les plats, c'est le tharid. Voilà, en gros, il fait une sorte de parabole entre ce que le plat le plus délicieux qu'il aime avec toutes les femmes qu'il a autour de lui.
On reviendra sur le nombre tout à l'heure, Karima. D'accord. Deuxième mot qu'on a appris en préparant cette émission,
Yacine. Pour terminer sur ce mot ascétisme, ça vient du grec askesis. Donc petite dédicace à notre ami Claude qui veut dire exercice ou entraînement, s'appliquant à de nombreuses activités, en particulier l'athlétisme aussi.
Parce que dans un premier temps, ça s'appliquait aux athlètes.
Oui, effectivement.
Qui se préparaient, qui s'entraînaient.
C'est ça, tout à fait.
Bien.
Deuxième mot, un mot qui est lié à l'ascétisme et qui est utilisé en arabe, c'est le mot zuhd.
Alors c'est, moi j'appellerais ça l'austérité. Zuhd, c'est comparable à l'austérité, c'est-à-dire le délaissement des biens de ce monde pour se consacrer à la récompense de l'au-delà. Je dirais à peu près ça comme définition. Zuhd, yazhad ani dunya lil akhirah, c'est l'austérité. Ça se traduit par austérité.
Karima, vous avez un complément?
J'ai pas, non. Pas là-dessus.
Yacine?
Oui, c'est tout à fait ça. On peut le traduire par aussi, on peut le traduire par ascétisme, mais aussi par détachement, renoncement ou austérité, tout à fait.
Parce que pour vous, l'austérité et l'ascétisme, c'est la même chose. Elisabeth, c'est la même chose pour vous?
C'est plus large, l'ascétisme.
Ah bah, l'ascétisme et l'austérité, ça va en général ensemble.
Oui, mais je dirais que moi, je pense que l'ascétisme est un terme plus générique, plus large, qui englobe l'austérité. L'austérité est un des aspects de l'ascétisme, mais alors que l'ascétisme englobe d'autres aspects du cheminement, l'effort sur l'âme passionnelle.
Je dirais que l'austérité peut être une façon de vivre, mais que la sèse, c'est une façon de vivre dans un but spirituel. C'est une façon de vivre austère dans un but spirituel. C'est comme ça que je vois les choses, mais je peux me tromper.
Non, mais très bien. Moi, j'aime bien cette définition.
Et un autre mot.
Allez, un dernier mot, Yacine.
Ah, ouais, ok. Bon, j'en avais deux. C'est apatheia. Est-ce que vous connaissez ce mot? Le mot apatheia.
C'est une station balnéaire en Thaïlande.
Non, ça aurait pu.
Non, à Tahiti.
Non. Bah, en fait, c'est l'absence de passion qui était recherchée, le refoulement de pulsions destructrices et source de souffrance, notamment à l'époque de l'Empire romain ou bien chez les stoïciens. Voilà, tout simplement.
Mmh. Allez, un dernier.
On retrouve ça chez les bouddhistes.
Aussi, effectivement, tout à fait.
Ah oui.
Mmh. Oui, ça signifie littéralement l'absence de passion.
Absence de passion. Apatheia.
Nous, en arabe, on appelle ça l'hawa. Le terme hawa, qui est pour nous, c'est le fait de suivre ce qu'on a envie. Et de ne pas dompter son âme et l'exiger à faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit l'âme passionnelle, celle qu'Ammar Abissou, qui ordonne, qui encourage et qui tend l'être humain à commettre des turpitudes et des péchés. Et bien, c'est cette âme passionnelle. Et moi, je pense qu'Apatheia est cet effort dans lequel on lutte contre cette âme passionnelle.
Un petit dernier mot, on avait trouvé un, c'était sympa, c'est notamment dans le courant orthodoxe, donc il y a des couvents et des monastères, et on a les abbés dans ces couvents et ces monastères, on a les abbesses aussi, donc pour les femmes. J'ai trouvé ça assez sympa.
Abbesse, ouais. Comme dieu et déesse.
Oui, tout à fait.
Ouais. C'est le féminin de abbé. Abbesse.
Pas l'abbesse.
Hein?
Ils n'ont pas la baisse. Non, moi j'aurais dit Amé, Amé, puisque Abé, ça vient du mot Ab qui veut dire en arabe et même en hébreu ça veut dire le père. Mm. On dit mon père, Abi, c'est mon père. Hein, comme on parle d'un curé, on dit mon père. J'aurais dit Oumé ou bien j'aurais dit Amé.
Amé. Amé, ouais. On dit Abès ou mère Igoumène.
Mère Igoumène.
Les mères Igoumènes.
Igoumène.
H-I-G-O-U-M-E-N-E.
Ah ben, j'ai bien fait de venir.
Est-ce qu'il y a des exemples de femmes qui se retirent pour se consacrer à Dieu en islam? Karima Chedibaou.
Alors, là-dessus...
Comme il y a les sœurs, comme il y a les nonnes ou,
Alors, il y a... En fait, en islam, en tout cas, là, je vais donner ma conception, hein, et de ce que j'ai appris, de ce que j'ai pu lire aussi, et de mon expérience personnelle. Pour se consacrer à Dieu, les femmes, en fait, dans la conception musulmane, tu peux te consacrer à Dieu tout en étant épouse, tout en étant une femme qui travaille, qui œuvre dans la société. Il n'y a pas une dissociation, on va dire.
Il n'y a pas besoin de se retirer.
Il n'y a pas besoin de se retirer. Tu peux aspirer à être une cheminante, comme on les appelle, à aspirer à l'excellence, à l'ihsan, dans l'excellence, donc la bienfaisance, dans le bel agir dans ta religion. T'as pas besoin en fait de te retirer du monde pour pouvoir adorer Dieu. Tu peux très bien le faire tout en étant mère, tout en étant épouse, tout en étant femme qui travaille, qui œuvre dans la société, qui a un impact et un rayonnement social. D'accord ? Parce que ça contribue en fait du rayonnement des femmes et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit moins de femmes. Maintenant, on a des exemples bien sûr de Rabi'a al-Adawiyya, la plus connue, hein, cette femme. Qui était Hassan, elle était mariée, elle avait, je crois, un mari, il me semble.
Non, elle était esclave surtout.
Au début de sa vie, elle vivait des choses un peu spéciales. Mais
parce qu'elle était chanteuse et poète.
Chanteuse et poète, mais elle avait aussi une vie un peu de poétesse. Libertine, quoi.
On dit poétesse là pour féminin.
Un peu poétesse, libertine. Oui. Ouais. Et donc ensuite, elle s'est.
Libertine, c'est une esclave. Donc à partir du moment, elle est déjà l'objet. Voilà. L'objet de jouissance.
Donc il y a une quête pour elle, une recherche, une quête d'être proche de Dieu, d'avoir une pratique religieuse, une spiritualité qui vraiment la met à la proximité de Dieu. Maintenant, dans son exemple à elle, on sait qu'elle était retirée, les gens venaient la voir. J'invite nos auditeurs à lire son histoire, hein. Mais moi, je suis plutôt sur l'ascétisme des femmes. Je ne suis pas vraiment... Il n'y a pas à être pour ou pas être contre. C'est pas ça.
En islam, on n'a que cet exemple-là de femmes...
Non, on en a plein. Non, on en a plein. Mais en tout cas, moi, c'est celui qui me vient là maintenant.
On a déjà les femmes qui ont fréquenté le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant. Beaucoup d'entre elles étaient parmi, par exemple, les épouses des compagnons, à qui l'on reconnaît un ascétisme et une piété... exemplaire et incomparable de nos jours. J'en passais des meilleurs, Umm Waraqa, Umm Jamil, il y a Zainab bintou Khuzaima, qu'on appelait Umm al-Masakin. Oui.
Asma bintou Yazid aussi.
Asma bintou Yazid, j'en passais des meilleurs. Bintou Milhan aussi. Asma bintou Milhan, etc. J'en passe. Non, il y a énormément de femmes qui sont réputées comme étant des femmes ascètes qui ont traversé l'histoire.
Bien, on en parle de cet ascétisme au féminin jusqu'à 11h, c'est Speak Uni sur Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant. Ouais. 10h, 11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ouais, Karima Chedibaou, qu'est-ce que ça veut dire Speak Uni?
Alors, c'est spiritualité, culture et harmonie.
Vous apprenez vite. Elisabeth Crémieux est avec nous, agrégée d'histoire et présidente d'Acora. L'imam Abdelali Mamoun est également avec nous. On parlait de cheminante tout à l'heure, Yacine. Le terme vous a alerté, c'est Karima Chedibaou qui l'a prononcé. Qu'est-ce que vous appelez la cheminante?
Alors, la cheminante, c'est celle qui prend le chemin. C'est celle qui se met en route à la découverte d'elle-même, en même temps qu'elle se dévoile à elle-même. elle découvre aussi son Seigneur, son Créateur et cette proximité avec Dieu, donc à travers sa pratique spirituelle, à travers son assise et sa discipline aussi et religieuse et spirituelle. Donc moi j'aime à dire cheminante parce qu'à un moment donné sur le chemin, on peut s'arrêter, observer ce qu'il y a autour de soi et puis parfois aussi sur le chemin il peut y avoir des obstacles.
Est-ce qu'on peut être cheminante et être dans une vie active ou être aisé, être c'est compatible ou
pas? Est-ce qu'on peut être riche déjà?
Alors moi, de mon point de vue, oui, absolument, on peut être. Il y a pas, pour moi, il y a pas ce vœu qu'on doit faire de pauvreté ou ce vœu de chasteté qu'on peut retrouver dans d'autres religions. Hein. On peut être un ascète, c'est-à-dire avec Dieu au milieu des autres.
Alors, Elisabeth Crémieux, on a parlé beaucoup de l'ascétisme comme une forme de privation et d'austérité. Est-ce qu'on peut définir plus précisément ce que c'est que cette notion d'ascétisme ?
Alors, si on parle de l'ascétisme, moi, ce que je connais un peu, c'est l'ascétisme chez les chrétiens.
C'est celui-là qu'on veut. C'est celui-là qu'on veut connaître aujourd'hui.
Voilà. Alors, l'ascétisme chez les chrétiens est très prisé depuis le début du christianisme. C'est considéré comme un des moyens de se rapprocher, de s'élever vers Dieu. Et il y a les premiers chrétiens étaient très souvent des ascètes qui menaient des vies retirées, ils étaient aussi ermites et qui étaient extrêmement qui multipliaient les exercices de piété, qui mortifiaient leur corps et qui souhaitaient même le martyr. Donc c'était des personnages qui nous apparaissent aujourd'hui comme un peu extrême, tout à fait extrême. Mais dans toute l'histoire du christianisme, et dans toutes les variantes du christianisme, sauf peut-être un peu le protestantisme, il y a des ascètes et des hommes et des femmes. Et ce qui s'y prêtait bien, c'était le monachisme. C'est-à-dire que dans le christianisme, contrairement à ce qu'on voit dans le judaïsme ou dans l'islam, il y a des gens qui vivent entre eux, dans des abbayes, des monastères. Et là, vous avez eu des grandes figures d'ascètes féminines qui restent très très connues. Alors, je peux vous en citer trois. Il y a Sainte Catherine de Sienne au XIIIe siècle, il y a Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, et il y a Sainte Thérèse de Lisieux à la fin du XIXe siècle. Mmh. Et ce sont des femmes qui mènent des vies de privation extrême, par exemple Sainte Thérèse. Elle jeûnait 8 mois par an, qui dorment très peu, qui prient énormément et qui cherchent par ce moyen-là à s'élever vers, à s'unir avec Dieu et qui connaissent des extases mystiques.
Excusez-moi, juste vous parlez de jeûne 8 mois par an. Elle jeûnait de la même manière que les musulmans, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil
Alors, elle jeûnait, c'est-à-dire qu'elle mangeait très... Enfin, quand on dit qu'elle jeûnait... Oui, elle mangeait très très peu. Elle mangeait, parce qu'il faut manger pour vivre, mais elle se privait de nourriture dans toute la mesure du possible.
C'est une forme de carême.
Ah oui, c'est un très grand carême. Ouais. Parce qu'il y a cette idée que, en mortifiant son corps, on élève son esprit et on élève son âme.
On affaiblit l'esprit. Ses passions pour donner place à...
Voilà. Enfin, là, il y a quand même une notion de souffrance, hein.
Non,
d'affaiblissement du corps et du côté passionnel pour donner plus de liberté à l'âme.
Il y a une idée du christianisme qu'on trouve dans le calvaire du Christ, c'est que la souffrance mène à la rédemption. C'est que la souffrance mène à la... à la rédemption. Que souffrir est une bonne chose. Dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins présent, mais dans le christianisme jusqu'à la fin du 19e siècle, la souffrance positive.
Aujourd'hui, quand même, au XXIe siècle, on parlerait peut-être même d'une forme de masochisme, non ?
Ah, en tout cas, de dolorisme.
De dolorisme. Alors, vous appelez ça du dolorisme, si vous voulez. Mais...
Et qui se distingue, comme l'a dit la dernière fois Catherine, Elisabeth, à la souffrance. Donc, la douleur n'est pas la souffrance. C'est ce que vous avez dit, je crois. Quand on avait parlé de la grossesse, l'accouchement, notamment.
C'est-à-dire qu'il y a cette idée que mortifier, que le corps est une guenille, que le corps est une source de péché, et que mortifier son corps, c'est une façon de se corriger du péché originel, en fait. Et donc, il y a cette idée qu'en mortifiant son corps, en se privant de nourriture, en se privant de sommeil, en vivant dans le froid, etc., on va échapper aux tentations du corps et que ça va permettre à l'âme de s'élever vers Dieu.
Mais est-ce que ça rend heureux d'une certaine façon ?
Est-ce que ça rend heureux ? Oui, je pense que eux, ça les rendait heureux. Je pense qu'on a des très beaux textes de Sainte Thérèse d'Avila, et elle dit qu'elle ressent de véritables extases quand elle se rapproche de Dieu. Elle dit qu'elle rencontre Dieu, qu'elle rencontre Jésus. Pour elle, c'est le sommet du... C'est le sommet du bonheur, l'extase mystique.
Je voudrais qu'on l'on dévoile quelque chose dans ce que dans la question de Philippe quand il dit que ça rend heureux. Je voudrais dire Philippe que justement l'ascétisme, ça n'est pas se préoccuper de son bien-être. C'est d'abord s'assurer de la satisfaction divine. Que l'on soit en bien-être ou pas. Toi, quand tu poses cette question, on a l'impression que quelqu'un va chercher, va être dans cette démarche de spiritualité, d'ascétisme, pour chercher un bonheur en lui-même, chercher finalement un bonheur pour lui. Effectivement, le bonheur, il est là, mais il est secondaire. Il est après, d'abord, la volonté de satisfaire Dieu. Alors que quand toi, tu mets en avant, d'abord, je vais dans une démarche d'ascétisme ou de, je sais pas moi, de contemplation ou de concentration ou plein d'autres choses comme le yoga, etc. L'objectif principal, c'est d'abord d'acquérir le bonheur pour soi. Et c'est la principale visée et finalité. Alors que la finalité de l'ascétisme, c'est plaire à Dieu et se rapprocher de Dieu et exclusivement être s'abandonner, s'effacer pour Dieu. À tel point que dans certains soufismes musulmans, il n'existe plus. C'est pas ses passions qui n'existent pas. C'est la personne elle-même qui n'existe plus. Et la création elle-même n'existe plus. Il n'y a que Dieu qui est là.
Alors, Elisabeth.
Sans les degrés très élevés de soufisme.
Elisabeth, qu'est-ce que vous disiez à l'imam, Elisabeth ?
Oui. Elisabeth ?
Je disais que le mysticisme est le même, quelle que soit la religion. Hein.
Oui.
Le désir de se rapprocher de Dieu est le même chez les mystiques soufis que chez les mystiques chrétiens. C'est la même chose.
C'est-à-dire que l'ascétisme est le même dans toutes les religions.
Oui, c'est pour Dieu. Oui. On fait pour Dieu, fils Abilillah, pour Dieu, fils.
Après, c'est peut-être la méthode
pas
qui est différente.
Neuf,
c'est-à-dire
pas
qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on voit, c'est qu'on, comme expliquait Karima tout à l'heure, c'est que chez les musulmans, il n'y a pas ce détachement
de la vie.
Se retirer dans une montagne ou dans un, en tout cas, qui est
dans une grotte,
ça reste quand même plus compliqué. Plus difficile à cheminer quand on est constamment perturbé par l'environnement de la dunya, des choses de ce bas monde, que quand on est, Elisabeth le disait tout à l'heure, une femme qui est dans une retraite spirituelle, dans une abbaye, dans un temple, dans un monastère, ou même dans certaines mosquées et sections féminines des mosquées, où est-ce que des hommes et des femmes restaient dans ce i'tikaf qu'on appelle nous en arabe i'tikaf pour se consacrer à Dieu.
Oui, mais quand on parle aussi de l'i'tikaf, de cette retraite spirituelle, comme vous dites,
imam. Il y a duré 5 ans, je signale pour le prophète.
Cette retraite, elle a un but. Parce que là, quand on dit on traverse une souffrance, de la douleur, les mots qui ont été utilisés sont quand même assez forts, où la personne, elle est en train de traverser...
attention, pour Elisabeth, elle ne parle pas de souffrance,
elle parle
de douleur.
Hein. Elle parle de douleur, oui, c'est pour ça que je dis souffrance et douleur, les deux mots qui ont été utilisés.
Il y a une extase de la douleur, il y a un plaisir de la douleur, on dirait.
Mais qu'en même temps, ce cheminant, cet aspirant, il veut atteindre la proximité de Dieu, donc une certaine élévation. Du moment, il est dans l'effacement du corps, du matériel, pour laisser son âme, en fait, rayonner, sortir et vraiment être dans la contemplation de Dieu. Mais en même temps, quand il fait ça, cet aspirant, en tout cas de mon point de vue, la souffrance n'existe plus, la douleur n'y est plus. Pourquoi ? Parce qu'il va faire ce qu'il plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu te plaît à toi aussi en tant que créature. Parce que tu es dans ce service, dans cette adoration complète. Donc moi, quand j'entends ascétisme, il y a souffrance, il y a douleur, je me dis, c'est pas possible. Il y a une incohérence de mon point de vue qui n'est pas juste. Maintenant, je suis enfermée dans une grotte, je vais aller méditer. Quand on regarde le modèle prophétique et la méthode prophétique, le prophète Issa salam, Sidna Mohamed, il allait se replier, rentrer en retraite pour communiquer avec le divin, D'accord ? Mais il revenait ensuite dans la société. Il revenait auprès des siens pour venir justement rayonner, donner, faire goûter la saveur de ce qu'il a vécu, donner des enseignements. Et dans l'ascétisme, on ne le trouve pas, ça. Dans l'ascétisme. C'est pour ça que je dis, oui, c'est bien, l'i'tikaf, quand on le fait, nous, pendant le mois de Ramadan, ou même moi je suis une pratiquante. Moi, je le pratique. Je le pratique le rebat, moi, je l'appelle comme ça. Le rebat, c'est-à-dire où je rentre, mes enfants le savent, mon mari le sait, je suis pendant.
Vous avez une grotte ?
J'ai une grotte, mon bureau, oui. C'est une grotte, c'est d'accord. Un endroit à moi où il y a les choses que j'aime, les livres que j'aime, je l'ai installé vraiment pour que je sois bien. Et je m'installe là.
Ah, pendant 10 jours,
pardon,
vous allez vivre
non,
là.
Pas pendant 10 jours, parce que 10 jours, je ne peux pas le faire pendant 10 jours. Mais en tout cas, pendant des fois 3 jours, où je suis en retraite spirituelle, où je ne suis que cette âme qui veut, bon, je mange, je jeûne, pour ne pas être perturbée à préparer à manger. Et je vais manger d'une manière encore moins que pendant le Ramadan.
Avec beaucoup de sobriété.
Avec beaucoup de sobriété pour ne pas être, comment je vais dire ça, distraite. En fait, c'est ça. Je ne veux pas être distraite par la nourriture, par la faim. Et donc, cet exercice, parce que c'est un exercice, qui vient venir me renforcer. Me renforcer physiquement, me renforcer spirituellement, pour qu'ensuite, quand je me retrouve avec mes enfants, avec mon mari, dans mon travail, avec les gens que je côtoie dans la société, plus forte. Et apporter, nourrir, apporter quelque chose. Vous voyez ? Enfin, c'est comme ça que je le...
Voilà, Elisabeth voudrait intervenir.
Oui, mais je vais bientôt être obligée de vous quitter. Non, je crois qu'il y a une différence fondamentale sur ce plan entre le christianisme et l'islam, parce que je vous rappelle que Jésus a été crucifié et que la passion, le calvaire de Jésus est considéré par les chrétiens comme une épreuve que Dieu a infligée à son propre fils. Et donc, il y a une valorisation de la souffrance. Et de la douleur, si vous voulez, chez les chrétiens.
Oui, mais justement, Elisabeth...
La douleur Pardon ?
Excusez-moi de vous interrompre, Elisabeth. On a l'impression, dans votre discours, qu'il n'y a qu'à travers la douleur, on ne dira pas souffrance, mais dans la douleur, qu'il peut y avoir cheminement spirituel. Existe-t-il autrement ?
Non, pas uniquement, pas exclusivement.
Voilà, pas exclusivement. Parce qu'on est en train de parler que de ça, et quand vous prenez la parole, c'est pratiquement que pour évoquer cette dimension nécessaire de souffrir, mais d'être dans cette douleur pour finalement être dans ce cheminement spirituel.
Ça ne recouvre pas tout le christianisme, mais c'est quand même une bonne partie du christianisme. Hein, cette idée que en souffrant, on se rapproche de Dieu.
Moi, j'aurais plutôt dire.
On avait eu cette discussion au moment de l'émission sur l'accouchement.
J'aurais plutôt évoqué pour l'ascétisme le principal vertu, c'est d'abord la patience.
Oui.
C'est as-sabr wal musabara. C'est l'endurance. C'est l'esprit de résistance contre soi-même, contre ses alter ego. C'est se contenir. C'est avoir justement faire ce travail sur soi-même pour dompter son âme passionnelle et véritablement devenir maître de soi.
C'est une des autres.
Et c'est pas forcément souffrir.
Imam Abdelali.
Je vais vous laisser, moi je suis obligée de vous laisser, mais ouais, l'émission avec beaucoup d'intérêt.
On te laisse conclure quand même, Elisabeth.
J'ai pas de conclusion à donner, hein. Moi je préfère que vous continuiez le débat et puis...
Tu étais en train de terminer une...
Tu disais qu'il n'y avait pas que la souffrance ou la douleur qui était...
Ah non, il n'y a pas que la souffrance, il y a un très long travail sur soi-même, d'autant que quand on étudie la vie des grands ascètes chrétiens, on voit qu'ils ont tous eu une période de doute. Mmh. Vous avez tous entendu parler de Mère Teresa. Mère Teresa, elle a écrit des carnets où on voit qu'elle a une période de doute. Et donc, c'est un travail sur soi-même pour surmonter le doute.
Oui. Et atteindre la certitude.
Et si vous me permettez, Elisabeth, c'est un travail sur soi-même et avec soi-même. Parce qu'elle fait le doute, évidemment, doute, il va venir aussi nourrir en fait cette certitude qui peut paraître paradoxale.
Merci Elisabeth,
merci, très
mieux d'avoir été avec nous.
Et puis je vous écouterai samedi. Bonne
merci
soirée.
Merci Elisabeth d'avoir été avec nous. Speak Uni, c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant. Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, on parle de l'ascétisme au féminin quelques jours après notre déconfinement. Mais c'est vrai que là, c'était le moment de cheminer d'être en retraite, le cheminement. Karima Shadibaoui est avec nous. Karima, vous êtes coach familial et parental et cofondatrice de l'école de naturopathie ENAT.
Oui.
Et ça se trouve à Saint-Ouen, l'imam Abdelali est là. On fera le grand quiz tout à l'heure. Alors j'allais dire du ramadan, mais c'est plus du ramadan. Voilà,
le grand quiz des religions.
Et auquel, Karima, peut-être vous gagnerez votre première poupée Shifa si vous remportez ce quiz. Ouais. Et je sais que vous êtes très très attentive à gagner et à remporter.
Elle va attendre longtemps pour la
poupée. Votre citation, Yacine.
Ah, c'est une petite méditation qui nous vient du Bouddha, qui dit « Ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé.
» Vous avez changé de citation pendant la pause, j'ai vu ça, Yacine, là, faut pas. Alors, l'imam Abdelali avait une devinette, enfin, c'est pas si une devinette, enfin.
C'est une devinette. C'est...
Oui.
Le point commun entre Abraham, Moïse et Salomon.
C'est des hommes.
Bon, ça, c'est.
Bonne réponse de Racine.
Moïse et Salomon. Non. Bah, trois prophètes. Bah, déjà. Mais,
bonne réponse de Karima.
Mais Joseph aussi, et Noé aussi. Et
d'accord,
Mohamed
alors pourquoi ces trois-là?
Ces trois-là, ils ont un point en commun on va dire, si, il y en a d'autres aussi, mais bon. Ceux-là, c'est avant le prophète.
Ils sont des sourates dans le Coran.
Des sourates, Souleymane.
C'est un lien avec l'ascétisme.
Il n'y a pas la sourate Souleymane, mais il est.
C'est un lien avec
évoqué dans le Coran.
Non,
ça n'a pas rapport. Ça va bien.
Donc tu as dit Souleymane, Moussa,
Moïse et Abraham.
Un indice, allez, un indice, parce que sinon.
C'est un lien avec,
rapport avec les femmes.
Avec leurs épouses.
Ah, ben ils ont eu plusieurs femmes. Ils ont plusieurs femmes. Souleymane, je sais qu'il a eu beaucoup de femmes.
Non,
Ibrahim, il en a eu deux.
Il y a eu Sarah.
Sarah et Hajar.
Ouais.
Moussa, il a eu. Sephora.
Sephora, qui était quoi, Sephora?
Elle était sœur.
Elle était. Attends, de Madian.
Non, mais quelle origine, c'est quoi ça?
Elle est arabe. Ah, ils étaient mariés avec des femmes arabes. Hajar.
Hajar est une arabe. Et Balqis.
Et Balqis, c'est.
La reine de Saba.
Yémen. Yéménite.
Oui, arabe.
Arabe aussi.
Bah oui, arabe. Trois femmes arabes.
Oh, je vais la reprendre, celle-là, l'imam
Ali Chouette. Avec des arabes, tout simple, des femmes arabes.
D'accord. On la garde pour l'année prochaine.
La
Mohamed, tu veux me dire aussi, tu es avec des Arabes. Allez, salat au salam. Bon, il y avait plein d'autres prophètes, mais bon, c'est ceux qui sont les plus connus.
Moi, j'aimerais bien revenir, Philippe, si c'est possible, sur les 4, le nombre 4, le chiffre 4.
Ah, allez-y.
Parce qu'on on a débuté tout à l'heure.
Oui. Alors, 4, pour que les gens comprennent, on parle du hadith où le prophète dit qu'il n'y a seulement que 4 femmes au moment où il le dit, qui ont atteint le summum de la foi.
Voilà, mais quand on vient étudier la vie de ces 4 femmes, donc on les rappelle, Assia, la femme de Pharaon, donc épouse, il y a Khadija, radiallahu anha, qui était la femme aussi, l'épouse du prophète, mais avant son mariage avec le prophète, c'était une femme...
Une commerçante,
une femme d'affaires, donc là, c'est la femme dans toute sa splendeur et dans tout son épanouissement, d'accord?
Pas c'était pas dans toute sa
si, c'en était une, mais elle... Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça.
Parce que c'est quand elle fait du commerce qu'elle
soyez
a du pognon.
Soyez attentifs.
Quand elle a du pognon, c'est la splendeur.
Non,
il y a des bijoux. Il y a des bijoux.
Ça suffit, l'imam. La troisième, donc on a... Maryam, alayhi salam, la mère de Sidna Issa, de Jésus. C'est donc elle, c'est la mère. Et on a Fatima Zahra, la fille du prophète, alayhi salam. Donc on a ici les 4 identités du féminin, la féminitude, les 4 portes. On a la fille, avec la piété filiale, la fille du prophète, alayhi salam, Fatima Zahra. On a la femme accomplie, donc Khadija, radiallahu anha. On a la conjointe, Assia, alayhi salam, ou radiallahu anha, je ne sais pas ce qu'on peut dire, parce qu'elle était la femme de Pharaon, donc la conjugalité, être avec l'autre dans le couple, et on a le summum, la mère, Oumouna Maryam. Donc là, vous voyez, c'est les 4
j'ai
portes.
J'ai rajouté une cinquième.
Oui.
Une certaine Arlette qui a dit ouvrière, ouvrieuse.
En train de parler d'un truc.
Elle n'était pas dans le hadith.
Arlette. Non, mais juste pour vous dire, moi, comment je comprends le hadith et comment il a. Bon, c'est pas moi qui l'ai.
Vous avez les 4 identités. Moi, j'ai bien compris 4 ce que vous vouliez dire.
Et c'est 4 portes, en fait, pour atteindre l'excellence dans ton cheminement spirituel, toi, en tant que femme. Tu peux rentrer par la porte de la piété filiale. Tu peux rentrer par la porte de la conjugalité. Tu peux rentrer par la porte de la maternalité. Tu peux rentrer par la porte de l'épanouissement au féminin, de la féminité. Voilà. Donc c'est pour ça que le prophète Assalam nous dit ça.
Bon alors, quel regard les ascètes ont sur les choses de ce bas-monde et sur les plaisirs du bas-monde? Est-ce que finalement, être ascète, c'est de se priver des plaisirs de ce bas-monde et d'une certaine façon, c'est un thème qu'on évoque souvent avec Karima, c'est de pratiquer une forme d'autodiscipline?
Alors, d'abord, je pense que non. Sur la dimension austérité de l'ascétisme, c'est-à-dire le désintéressement des biens de ce bas monde.
Enfin, des plaisirs. Moi, j'ai dit des biens, plaisirs, mais je pense que des plaisirs.
Ça rentre dans le même lot puisque ça permet d'accorder au corps du confort et de la sécurité. Moi, je pense que c'est surtout au travail, au niveau du cœur que ça se passe, pas au niveau du corps. C'est-à-dire que ce que Dieu exige, c'est que l'homme doit, au niveau de son cœur, se sentir désintéressé de tous les biens de ce bas monde. C'est pour cela que le prophète disait dans un hadith, Allahumma ja'ali dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Oh mon Dieu, mets les biens de ce bas monde dans nos mains, mets-les à notre disposition dans nos mains pour les mettre à ton service et ne les mets pas dans notre cœur. Parce que s'ils rentrent dans nos cœurs, ils prennent la place de Dieu. On tombe dans une forme de polythéisme. On aime Dieu et les biens de ce bas monde. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est là tout le travail. C'est comment s'assurer de se débarrasser au niveau de son cœur de l'amour des biens de ce bas monde. Hein. Dans le Coran, à maintes reprises, il dit que c'est d'abord l'au-delà, c'est d'abord la récompense divine qui est plus importante, c'est d'abord Dieu, votre Créateur, qui est le plus important. Quand il parle il fait même l'éloge. Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisaa'i wal-banin. Hein, il vous a été embelli, hein, les sources de jouissance dans ce bas monde, les femmes, des épouses, l'or, al-qanatir al-muqantarati min al-dhahab wal-fiddati wal-khayl al-musawwama, les chevaux, etc., etc. Hein. Tout cela n'est que jouissance de ce bas monde. Toutes les jouissances de ce bas monde ne sont que des jouissances égarantes et déviantes du croyant dans son cheminement. Donc c'est Dieu qui dit, il utilise ce terme-là. Donc le plus important, c'est que si Allah Azza wa Jalla met à notre disposition ces biens dans ce bas monde, dans notre main, elle devient finalement une fitna, c'est-à-dire une épreuve. Est-ce que je vais l'aimer, m'attacher à ces biens de ce bas monde et en priver les nécessiteux, en priver les pauvres, etc. Et donc devenir égoïste, avare, etc. Et ou le gaspiller n'importe comment. Ou est-ce qu'au contraire, je vais en faire une source d'élévation elle-même. C'est-à-dire que les biens de ce bas monde elle-même devient une source d'élévation, comme le disaient certains pauvres au prophète alayhi salat wa salam, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujour. Hein, les gens pleins de richesses sont partis, nous ont dépassés avec la récompense que Dieu leur accorde grâce aux sadaqat qu'ils font parce qu'ils sont riches, alors que nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas faire ces sadaqat. Et donc la suite du hadith, c'est pas le sujet, mais surtout il est important de dire que ce qui est important, c'est d'arriver à se débarrasser de l'amour des biens de ce bas monde de son cœur et non pas de son corps et de ses mains. Hein, c'est pour cela qu'on voyait certains hommes autour du prophète et même des ascètes à travers l'histoire habillés comme des rois, habillés de manière magnifique, beaux, mais ils étaient complètement désintéressés. Ça, il n'y avait aucun attachement à tout cela. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que s'ils le perdent, tout ce qu'ils ont, cela ne les affecte en rien, psychologiquement et même spirituellement. C'est ce que disait justement ce maître à son élève. Alors c'est l'histoire d'un maître qui envoie un élève au pèlerinage. Il dit, d'accord. Il dit, bah, écoute, quand tu arriveras, tu passeras par telle ville, tu iras voir mon maître, c'est-à-dire le maître de ton maître. Alors que lui, son maître est quelqu'un de très pauvre. Il a juste un tapis et un récipient pour faire les ablutions. C'est tout ce qu'il possède. Donc, l'élève part et va rencontrer le maître de son maître. Mais pour arriver chez lui, il est obligé de rentrer dans un palais avec des serviteurs, etc. Plein de choses. Il est étonné comment ça peut être le maître. Il est certainement dépravé, il a certainement été égaré. Donc il part à la Mecque et quand il revient, il dit « Oh mon maître, tu sais que tu as surpassé ton propre maître ?» Il lui dit « Comment ça ? Jamais de la vie. Comment tu peux imaginer ça ?» Il lui dit « Mais si, quand je suis rentré, j'ai trouvé un palais, j'ai trouvé plein d'argent, d'or, de la nourriture à gogo, etc. » Il dit « Jamais, je n'ai jamais dépassé mon maître. » Il lui dit « Comment ça ?» Il lui dit « Tu sais, c'est lui, il perd tout ce qu'il a là maintenant. Cela n'affectera en rien son cœur. » Alors que moi, si je perds juste mon tapis, là, la petite peau de chèvre que j'ai là, je vais en pleurer, quoi. Je vais être triste. Je vais être affecté. Voilà la différence entre lui et moi. C'est que lui est certes entouré de richesses, mais n'est pas éprouvé par cette richesse. Il a réussi à en faire un objet, une source d'adoration, et non pas une source d'égarement et d'insouciance.
C'est une affaire de cœur, finalement.
Voilà, c'est une affaire. L'ascétisme est une affaire du cœur, c'est sûr. Alors, inna fil jasadi mudghah. Il y a dans le corps humain une mâchée, c'est-à-dire
une chair,
une boule de viande. Ida saluha, si elle est bienveillante, elle est bien entretenue, saluha sa'irul jasadi. C'est tout le reste du corps qui est, on va dire, assaini. Wa ida fasada, et si elle est corrompue, c'est tout le reste du corps qui est corrompu. Et il dira ensuite, ala wahi al-qalb. Il dit, c'est certes le cœur.
Bien. Et maintenant, jouons ce grand quiz des religions. Yacine, avec, alors Karima, on va tester vos connaissances.
Oh là là.
Alors, du coup, on va tester ses connaissances. Vous êtes prêts? Le premier qui répond aura le point. On va parler d'égalité homme-femme, notamment sur la question d'égalité homme-femme en France, qui sont liées à ce qu'on vit aujourd'hui en France. Première question, depuis quand une femme a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari en France?
En France?
Ouais.
74.
Non.
65.
Moins. Avant, un petit peu avant.
Ah,
65.
Oui. 65. Dans la réponse de l'imam, ce n'est que depuis 1965.
Oh là là, trop fort là.
Une femme est libre de travailler sans l'accord de son mari.
Bien. L'imam Abdelali Mahmoud, les doigts dans le nez, marque un point. Vous le saviez, Karima?
Non. Je savais que c'était récent, mais non, pas, mais pas la date.
C'est mon passage dans le syndicalisme qui m'a fait comprendre ça.
Oui. Syndicalisme.
C'est pour ça qu'il parlait d'Arlette.
Tout à l'heure.
J'étais pas chez avec Arlette. J'étais pas lutte ouvrière. Non, c'est pas du tout mon truc. D'abord, c'est pas un syndicat, lutte ouvrière, c'est un parti politique.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est plutôt la CGT qui était très proche de lutte ouvrière.
Alors, à quand le syndicat des imams?
Syndicat des imams. Oh la vache, c'est chaud là.
Il y aura autant de syndicats que d'imams. Allez, deuxième question, Yacine.
L'islam est une religion libérale. Donc, contraire à l'esprit même du syndicalisme très prolétaire et communiste. Hein. Ça, il faut le savoir.
Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'un maïeuticien?
Alors, la maïeutique, ça nous vient
Socratique.
De Socrate. Voilà, c'est l'art d'accoucher des esprits, c'est ça?
Oui, mais...
Moi, je sais ce que c'est. Vas-y. C'est un accoucheur, c'est un sage-femme.
Un sage-femme.
Oui, effectivement, le sexe masculin.
Mais il a accouché.
C'est ça, le mot maïeuticien désigne les sages-femmes.
Parce qu'il n'y a pas de masculin de sage-femme.
Ça ne pourrait pas être sage-homme, par exemple.
Un sage-femme. Mais donc, en tout cas, c'est un maïeuticien.
Maïeuticien. D'accord.
Mais ceci dit, c'est vrai que c'est Socrate, hein,
le père de la maïeutique. Absolument.
Donc c'est Karima qui marque le point.
Allez, allons-y.
La maïeutique se
un partout.
C'est un moyen, on détricote. Hein. Alors là, on vous fait de la maïeutique,
c'est ce qu'on fait, nous, dans les séances en psychothérapie, hein, la catharsis. Donc le fait d'accoucher, de faire sortir ce qui doit émerger de la personne. Donc on fait un peu ça.
Pour pouvoir le travailler. Quoi.
Ouais. Exactement.
Mmh. Alors, troisième question, Yacine.
Troisième question, depuis quand le masculin l'emporte-t-il sur le féminin dans la grammaire française?
Ça doit être vieux, ça. Oh là là, ça doit être super vieux.
Un siècle.
Allez, au moins un siècle.
Un siècle.
18.
Depuis.
16.
Ah, attends, t'as dit 18.
Non, attends, répète juste la question.
Depuis quand le masculin l'emporte-t-il sur le féminin dans la grammaire française?
Par exemple, s'il y a un homme
depuis
avec plusieurs femmes,
siècle,
tu dis
«
ils sont ».
16e, moi j'irais 16e.
18e.
Ouais, je dirais 17.
Alors, 17e, c'est pas ça. 16e, c'est pas ça.
15.
Le 15e
moi,
siècle.
Moi, j'en sais rien du tout. 19e siècle.
Je dirais 13e.
Presque.
Ah oui!
13, non, pas 13, on est très loin.
C'est 18.
18, 18e. Effectivement.
Le siècle des Lumières, et on laisse.
Tu as changé d'avis.
Attends, non, j'avais dit 18.
Mais attends,
c'est ma première réponse. Normalement, on retient la première réponse. Yacine, tu triches là. J'avais dit 18, attends.
C'est le 15e siècle, ta première réponse. Parce que tu as dit 18, après, tu as dit non, 15.
15, oui.
Effectivement, donc.
Bon. C'est Philippe alors qui a gagné le point.
C'est vraiment intéressant parce que depuis le
18e siècle, c'est parce que c'est Philippe, parce que c'est mon copain.
Cette règle a été instaurée par un grammairien qui considérait que lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Il parlait du masculin.
Le siècle des Lumières qui dit ça.
Mais cette règle est une pure convention que beaucoup remettent en cause aujourd'hui pour en revenir à l'ancienne
règle. Moi, je pense qu'au 21e siècle, ça va changer tout ça.
Je pense aussi.
Karima, que vous en pensez?
Il faudrait que ça change.
Mais d'ailleurs, c'est devenu. On revient à l'ancienne règle de proximité. L'accord se fait avec le terme le plus proche de l'adjectif dans la phrase. Que les hommes et les femmes soient belles. Donc on dit, au lieu de dire que les hommes et les femmes soient beaux, on dit que les hommes et les femmes soient belles.
Ah ouais. Bon, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Merci Karima, Imam Abdelali, Mamoun.
Merci à vous.
On vous retrouve vendredi, Yacine, à la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Merci de nous avoir écoutés et bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.